nzamba
nzambira samirana Vous suivez la radio Nzamba Agathe Kakawe, c'est l'heure du journal de ce lundi 16 août 2021. Tout d'abord, les titres. Trois corps sans vie ont été découverts en fin de semaine dernière. Il s'agit d'un militaire à Charama, d'une femme et d'un homme à Kayanza. Tous les trois corps ont été découverts dans leurs maisons respectives. La plupart des familles des personnes portées disparues ont peur d'alerter sur les disparitions. La campagne d'Ondeza sur les disparitions forcées au Burundi les appelle à surpasser cette peur afin de prévenir les malheurs qui pourraient arriver aux victimes. Et puis cette alarme des réfugiés du camp de Nduta qui redoutent la propagation de la Covid-19. La présence dans cet hôpital, dans l'hôpital de ce camp, de 7 personnes sous assistance respiratoire est à l'origine de cette peur panique. Voilà pour les titres. À la présentation, vous êtes avec Valérie Mucho. À toutes, à tous, bonjour et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Tout d'abord, cette brève sur la sécurité. Bakije Eric Seigneur du quartier Charama, dans la mairie de Bujumbura, a été retrouvé mort dans la nuit de ce dimanche. Il était militaire de l'armée burundaise avec un grade de capitaine. Selon la police, son corps a été trouvé allongé sur le lit dans un bain de sang. Et à côté du cadavre, il y avait une douille, un pistolet et une cartouche. Les mêmes informations indiquent qu'au niveau de la tête se remarquait un impact, probablement celui d'une balle. La police indique qu'il se serait suicidé. Ses parents affirment qu'ils n'avaient pas eu de ses nouvelles depuis vendredi dernier aux environs de 21h. Ils ont alors décidé de faire défoncer les portes de sa maison hier dimanche vers 23h jusque dans sa chambre. Le corps a aussi été évacué vers la morgue. Deux corps sans vie d'une femme et d'un homme ont été découverts en fin de semaine dernière en province Kayanza, c'est au nord-est du pays. Les deux ont été retrouvés dans leurs maisons respectives. Delicia Kamikazi pour les détails.
Un enseignant au lycée de la Komibu, au chef-lieu de la province Kayanza, a été retrouvé mort dans son maison ce dimanche. Les voisins inquiétés ont dû défoncer la porte de la chambre à coucher d'Oeli Guilimana, âgé de 57 ans. Il n'avait pas été vu depuis samedi alors que vendredi, il était allé se faire soigner à l'hôpital. Cet enseignant avait des problèmes cardiaques et le diabète. Il était séparé avec sa femme, raison pour laquelle il vivait seul d'après son voisinage. Une autre personne trouvée morte, c'est une femme âgée de 37 ans. Clotilde Mbonima de la colline Mugoyi de la commune Kabarole, dans la province de Kayanza, a été retrouvée pendue à l'aide d'une moustiquaire ce samedi. Des sources à Mugoyi pensent qu'elle serait suicidée à cause des problèmes familiaux. Son époux l'avait laissé avec trois enfants pour aller épouser une autre femme en Tanzanie, une raison qui aurait poussé la femme à se suicider, selon toujours son voisinage à Mugoyi. L'administration provinciale qui confirme toutes ces informations demande au couple d'être à la hauteur des conflits familiaux en gardant l'union, saisir les instances habilitées en cas de désaccord.
La campagne d'Ondeza sur les disparitions forcées au Burundi attire l'attention des familles des personnes enlevées. Il faut oser le signaler à temps. Cet appel survient dans un contexte où de nombreuses personnes sont portées disparues ces derniers jours. La majorité sont enlevées par les services de renseignement. Pour la campagne d'Ondeza, il est très important d'alerter dès le moment des faits, même s'il y a des familles qui hésitent encore par peur de représailles. Pacifique Inina Azwe, l'initiateur de cette campagne, précise que lorsque les proches attendent beaucoup de jours avant d'alerter sur l'enlèvement des leurs, cela donne du temps aux agents du Service national de renseignement, le temps de torturer sans inquiétude la personne enlevée, mais aussi de la tuer le cas échéant. Je vous propose d'écouter Pacifique Inina Azwe.
Nous avons souvent dit que c'est très important d'alerter
dès le moment même de l'enlèvement. Mais nous constatons de plus en plus qu'il y a des familles qui hésitent à lancer des alertes en se disant que s'ils font l'alerte, sera une façon de confirmer que la personne enlevée serait en collaboration avec ceux qui vont faire l'alerte ou publier le cas. Ce n'est pas le cas, ça c'est une façon de se tromper, parce que lorsque les familles attendent beaucoup de jours avant d'alerter sur l'enlèvement des leurs, cela donne du temps au service national de renseignement, le temps de torturer sans inquiétude, sans perturbation la personne enlevée, mais aussi, le cas échéant, le temps de le tuer sans difficulté. Or, lorsqu'il y a une alerte dès l'enlèvement, cela met la pression sur le service de renseignement et sur les personnes qui ont enlevé la personne. C'est très important que dès le moment où la famille ou les proches ou des témoins ont connaissance de l'enlèvement d'un citoyen, c'est très important qu'immédiatement les familles, les proches et les témoins communiquent sur l'identité de la personne enlevée, comment étaient les personnes, le nombre et l'apparence des personnes qui l'ont enlevée, le véhicule qui a été utilisé, sa couleur, sa marque, son numéro d'immatriculation. Ces informations sont essentielles dans les premières heures et ces informations font que les auteurs de l'enlèvement apprennent qu'ils sont identifiés et qu'ils aient peur. Alors, quand c'est communiqué de cette manière-là, c'est rare que les victimes sont tuées. Ils sont plutôt, dans la plupart des cas, présentés devant le parquet et amenés à la prison.
Continuons ce journal par cette brève. Deux responsables du parti d'opposition CNL, le Congrès national pour la liberté, dans la commune Guitowé, en province de Kirundo, sont libres depuis samedi soir. Ernest Mbazumutima et Nopomusen Ndongutse, respectivement responsable communal du CNL et responsable du CNL sur la colline de Garocha, avaient été arrêtés dans la nuit du 3 août lors de leur arrestation. La police était pourtant venue pour appréhender une autre personne, un certain Serge, récemment rentré d'exil du Rwanda, mais ce dernier avait déjà pris la fuite jusqu'à leur libération. Les deux responsables du parti CNL n'ont pas été signifiés sur le mobile de leur arrestation et les membres de ce parti du nord du pays avaient protesté contre cet emprisonnement qu'ils qualifiaient d'illégal et qui pour eux ne visait qu'à intimider les membres du principal parti d'opposition. Une courte pause et on se retrouve pour la suite de l'actualité burundaise.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie. Il est important de savoir que les personnes vaccinées peuvent être contaminées et peuvent contaminer à leur tour les autres.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Poursuivons ce journal avec la peur de la propagation du Covid-19 qui hante les réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie. 7 patients sont sous assistance respiratoire dans un hôpital à l'intérieur de ce camp. Parmi ces personnes figurent des réfugiés. Les réfugiés appellent au renforcement des mesures de prévention. Vanessa Muiteka nous en dit plus.
Le nombre de patients placés en isolement à l'hôpital de l'ONG Médecins sans frontières ne cesse de croître depuis samedi dernier. Selon des sources recueillies dans son camp, au départ il y en avait 2. À cela se sont ajoutés 5 autres. Jusqu'à ce lundi, 2 Tanzaniens et 5 Burundais étaient sous assistance respiratoire. Cela suscite la peur chez les réfugiés.
Il n'y a pas vraiment eu de confirmation de la part des autorités sanitaires du pays comme quoi c'est Covid-19. Mais ces personnes sont isolées, ça nous inquiète trop parce que ici il n'y a pas vraiment de mesures de prévention de Covid-19.
Les réfugiés réclament des séances de sensibilisation au respect des mesures barrières pour éviter d'éventuelles contaminations au Covid-19.
L'église sont remplis de fidèles, sans mesure de distanciation sociale, sans mesure d'hygiène. Quand on sort au terrain de football, on voit que les joueurs sont là et le public assiste. sans s'inquiéter. Nous demandons vraiment aux autorités du camp, aux ONG, de sensibiliser aux réfugiés de pratiquer les mesures de prévention de Covid-19. Sinon, le camp risque d'être le foyer de Covid-19.
Nous n'avons pas pu joindre par téléphone le responsable de l'hôpital de l'MSF en Douta. Pour plus d'éclaircissement, le responsable du camp n'était pas non plus joignable. Depuis le début de la pandémie, aucun cas de Covid-19 n'avait été rapporté dans son camp, selon des sources sur place.
Et puis cette grogne du personnel du bureau en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans la province de Muyinga. Ces fonctionnaires de l'État s'insurgent contre la mesure prise par le gouverneur de province, Jean-Claude Barutwanayo, qui leur a intimé l'ordre de quitter sans délai les maisons de service qu'ils occupent pour les transformer en bureaux publics. Une mesure jugée arbitraire par ses agents. Le point avec Josephine Jones, Munziman.
Il y a plus d'un mois, le gouverneur de la province Muyinga, Jean-Claude Barutwanayo, sommait le personnel du BPAE logé dans des maisons de service à les libérer pour céder la place aux nouveaux services récemment créés, comme l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat au Bourra, selon des lamentations de quelques agents lésés. Le gouverneur invite ces derniers à occuper leur propre maison pour ceux qui en ont, et d'autres de louer les maisons d'habitation comme le font les autres agents de l'État. Pour les lésés, cette mesure prise par le gouverneur Barutwanayo est injuste pour deux raisons. La première, c'est que cette décision devait émaner du ministre de tutelle. La seconde, c'est qu'il y a d'autres fonctionnaires qui habitent dans des maisons de service comme les médecins et le gouverneur lui-même qui ne sont pas pour autant inquiétés. Un autre argument avancé par son personnel pour contester cette décision, c'est qu'il existe des locaux vacants pouvant abriter ces nouveaux services récemment implantés à Muyinga. Seulement, déplore-t-il, ces locaux sont mal gérés. Comment le gouverneur de province donnerait un bureau de travail à sa sœur qui travaille pour le compte d'une ONG au détriment des services étatiques? Ces fonctionnaires demandent à leur ministre de tutelle de contrecarrer cette mesure arbitraire. Contacté par téléphone, le gouverneur de la province de Muyinga, Jean-Claude Barutwanayo, n'a pas voulu s'exprimer sur ces lamentations.
L'amnistie générale et une bonne politique de rapatriement des réfugiés sont parmi les piliers qui pourraient permettre la relance économique du pays. C'est le contenu d'un document que l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques vient d'adresser au président de la République. Gabriel Ofsiéli, le président de l'ELUCOM, estime que les prisonniers constituent une lourde charge pour le pays. Dans le même temps, ces mêmes détenus et les réfugiés constituent un capital humain qu'il faut exploiter. Suivez Gabriel Ofsiéli.
Cette deuxième partie souligne plusieurs points. Ici, je nommerai notamment le point en rapport avec l'amnistie générale des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion, mais aussi la question qui concerne les réfugiés. Vous savez que aujourd'hui, il y a plus de 300 000 réfugiés à l'extérieur du Burundi. Tout cela, c'est le capital humain qui n'est pas entré d'œuvre pour le pays. Raison pour laquelle, d'abord pour les prisonniers en général, comme je le disais, il devrait y avoir l'amnistie générale et ensuite un programme national de rééducation pour qu'ils puissent venir en aide au pays, parce que, comme vous le savez, dans les prisons, ils ne font qu'être une charge pour l'État. Donc, il doit y avoir certainement cette politique de rééducation, mais aussi il faut une politique d'incitation aux réfugiés pour qu'ils puissent rentrer, mais cette incitation doit reposer un environnement qui doit pousser ces réfugiés de rentrer. C'est pas seulement faire un appel. L'appel seulement ne suffit pas, mais il doit y avoir des actes concrets pour que les réfugiés puissent venir et puissent rentrer sans problème.
Les consommateurs de l'huile de palme se lamentent de la montée exponentielle du prix de cette denrée de première nécessité sur tous les marchés du pays. Les commerçants justifient cette montée des prix en disant que les prix de tous les autres produits dérivés du palmier ont augmenté et ces consommateurs demandent au gouvernement d'intensifier la culture du palmier à huile pour éviter que la situation ne s'aggrave davantage. Les détails avec Josine Kadze.
La population à faible revenu ne s'approvisionne plus en huile de palme dans les différentes provinces du pays. Des boutiquiers ne servent plus de l'huile à 100 ou à 200 francs burundais et certains disent avoir abandonné ce commerce selon nos sources. Dans les provinces d'Urumongi et Bubanza qui récoltent plus de l'huile de palme, un bidon de 5 litres s'achète à 25 000 francs burundais alors que le même bidon s'achète à 7 000 dans les conditions normales. Un bidon de 20 litres s'achète actuellement autour de 100 000 francs burundais. Son prix ne dépasse pas 25 000 francs dans les conditions normales. Le prix d'un petit fût de 300 litres est d'environ 1 million. Normalement, son prix ne dépassait pas 250 000 francs burundais. C'est une situation catastrophique selon les commerçants. Une partie de l'huile de palme qui n'est plus importée de la République démocratique du Congo a fait que ses prix montent selon nos sources. Les palmiculteurs donnent une autre version en se basant sur les saisons de productivité du palmier à l'huile. Selon eux, pendant la période de septembre à décembre, la production est grande. La moyenne production s'observe entre janvier et avril, tandis que la période de mai à août, la production est faible. Les exploitants du palmier à l'huile de différentes provinces convergent sur cette explication. Ils espèrent par ailleurs que l'huile pourra être abondante dans les prochains mois. La faible production de l'huile de palme occasionne la hausse des prix de divers dérivés du palmier, dont le savon. L'huile de coton surnommée Cocoil est devenue elle aussi chère. Des consommateurs demandent au gouvernement de multiplier le palme dans toutes les provinces pour augmenter la production. La radio Indamba n'a pas pu joindre Consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Lumonge, pour qu'il éclaire l'opinion sur cette hausse de prix.
Terminons ce journal par le sport. Le championnat de football édition 2021-2022 a débuté ce samedi. Seule une équipe parmi les trois promus a pu arracher une victoire dans l'élite burundaise. 14 buts ont été marqués pendant les 7 matchs joués. Les détails avec Alexandre Nyongeko.
C'était une joie immense pour les fans du football ce samedi, journée marquant le début du championnat national de football du Burundi, Primus League. Ce jour-là, ces amoureux du ballon rond ont pu assister à 4 rencontres sur différents terrains. À Chibutoke, Bumamuru, qui représentera le Burundi à la Coupe de la Confédération, a souffert devant Buja City. Mené par 2-0, les joueurs d'Olivier Nyungeko se sont ressaisis et ont gagné le match par 3-2. À Ruigi, devant son public, ce club promis en première division s'est imposé pour son premier match devant Burundi Sport Dynamique sur 1-0. Un retour gagnant pour ce club qui a représenté dans le passé le Burundi à la Ligue des Champions. Les autres équipes qui venaient de la deuxième division ont perdu leur premier match. Les Crocos de Lumonge ont été battus par Aigle Noir sur un score de 2-1. Le club Top Junior a quant à lui été dominé par Flambeau sur un score de 3-0. Dans les autres rencontres, Olympic Star a battu Kayanza United sur un score de 1-0. Même score entre Atletico New Oil et Royal de Mourambia en faveur de New Oil. À Gitega, dans un match le plus attendu de cette première journée, Musongati et Vitalo se sont séparés sur un score nul et vierge. Le match qui allait opposer Rukinzo à Messager a été reporté. En effet, les joueurs de cette formation de Ngozi ont bénéficié de quelques jours de repos après la CECAFA Kagame Cup. Chez les dames, c'était la finale du tournoi de la première dame, un tournoi initié pour soutenir le football dans cette catégorie. Cette finale a été remportée par PVP Buyenzi qui a battu Fofila de Ngozi sur un score de 4-2. Ce club féminin de Buyenzi représentera d'ailleurs le Burundi pour la première fois à la Ligue des Champions.
C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction de la radio Nzamba, Agathe Kakaawe, pour la production de ce journal. Un grand merci à vous tous pour votre attention et votre fidélité. Au revoir.